êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous écouterons la deuxième leçon dans une série sur les conversions dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, première partie. Comme nous l'avons dit dans notre dernière leçon, le livre des Actes a parfois été appelé le livre des conversions. Il est rempli, en effet, de récits de la conversion de différentes personnes. Aucun de ces récits n'est plus important que celui de la conversion de plus de 3000 personnes en Acte 2. Il s'agit des premières personnes à se convertir et de l'établissement même de l'Église. Au commencement du chapitre, nous trouvons les 12 apôtres. Les 11 plus Matthias qui avait été choisi pour remplacer Judas. Tous se réunissent à Jérusalem. C'est le jour de la Pentecôte, une fête juive qui avait lieu 50 jours après la Pâque et donc 10 jours après l'ascension de Jésus. À cause de la fête, des centaines de milliers de Juifs venus de tous les pays de l'époque se trouvaient à Jérusalem. Ce fut en ce jour que le Seigneur envoya sur les apôtres la puissance d'en haut, le Saint-Esprit qui leur avait été promis. Les versets 1 à 4 nous disent « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » En lisant ces versets de nos jours et en tenant compte de ceux qui, dans une excitation religieuse, parlent de façon totalement inintelligible et puis nous disent qu'ils ont exercé le don biblique du parler en langue, il nous serait facile de mal comprendre ce que la Bible décrit. Ce n'était pas du charabia, mais un miracle convaincant. En effet, les versets 7 et 8 nous disent que les gens qui s'assemblèrent quand le bruit se fit entendre étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Les apôtres, étant de la Galilée, n'avaient pas appris toutes les langues de l'Empire romain, mais les voilà. Celui-ci s'exprime parfaitement comme un crétois, celui-là en langue égyptienne. Un autre parle sans problème une langue de la Mésopotamie, tel autre en arabe, tel autre comme un parthe, un habitant de l'Asie ou quelqu'un de la Pamphylie. Les gens voulaient savoir ce que voulait dire un tel miracle. L'apôtre Pierre leur expliqua qu'ils assistaient à l'accomplissement d'une parole de l'Éternel livrée des siècles auparavant par le prophète Joël. Dans cette prophétie, Dieu promettait répandre de son esprit sur les hommes dans les derniers jours, ce que Jésus aussi avait promis avant de retourner au ciel. Le miracle du parler en langue était une preuve tangible de la venue du Saint-Esprit en ce jour-là. L'application que Pierre fit de la prophétie de Joël montre aussi que depuis le jour de la Pentecôte, nous vivons dans les derniers jours. En plus de la venue de l'Esprit, le jour de la Pentecôte était remarquable parce qu'il vit l'établissement de l'Église, le royaume prophétisé depuis si longtemps, le royaume dont Jean-Baptiste et Jésus avaient dit que la venue était proche. Après la prédication de Pierre, 3000 personnes, selon Actes 2, verset 41, acceptèrent sa parole et furent baptisées. Ces personnes formèrent l'Église, celle que Jésus avait promis bâtir en Matthieu 16, verset 18. En parlant des jours qui ont suivi la Pentecôte, Actes 2, verset 47 dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » L'Église, le royaume spirituel du Messie, attendu depuis si longtemps, était devenu une réalité pour les hommes. Ses portes leur étaient désormais ouvertes. Les paroles des saints prophètes s'étaient accomplies. La venue du Saint-Esprit, l'établissement de l'Église, la conversion de 3000 personnes et l'accomplissement de prophéties. Toutes ces choses importantes ont eu lieu le jour de la Pentecôte. Mais aussi importante que tout cela est la prédication de l'Évangile qui a eu lieu en ce jour pour la toute première fois. En relisant le chapitre, vous constatez que Pierre, dans son sermon, n'a pas insisté longtemps sur le miracle du parler en langue, aussi important soit-il. Il a poursuivi sa citation du prophète Joël jusqu'au verset qui dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il introduit ainsi l'idée d'un besoin d'être sauvé. Avant la fin de son discours, ses auditeurs seront bien conscients de ce besoin et ils demanderont avec urgence « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Au verset 22, Pierre passe directement au vif de son sujet. Jésus de Nazareth, celui qui sauve. Il rappelle à ses auditeurs que Dieu lui-même avait rendu témoignage à Jésus par les miracles que Jésus avait faits au milieu du peuple. Ses auditeurs eux-mêmes étaient bien au courant de ces grands miracles. Il leur rappelle que, malgré ce témoignage de Dieu, ils avaient fait crucifier Jésus par les mains des païens. Pierre leur précise cependant que Dieu avait prévu tout cela dans son dessein éternel. Pierre leur déclare aussi que Dieu avait ressuscité Jésus des morts. Il a appuyé cette déclaration en citant les Écritures qui avaient prédit la résurrection du Christ et en montrant que ces passages ne pouvaient parler que de Jésus. Voici donc la conclusion de Pierre. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, verset 36. Cette prédication a eu des résultats impressionnants. Le verset 37 nous dit que les auditeurs avaient le cœur vivement touché. Et comme nous l'avons déjà lu, ils demandèrent « Que ferons-nous ?» Pierre leur dit de se repentir et d'être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Selon les versets 40 et 41, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Comme dans cette série, nous développons le thème des conversions dans le livre des Actes, prenons le temps d'analyser ce qui a produit la conversion de ces 3000 personnes. Constatons premièrement que ce ne sont pas les miracles qui ont produit les conversions. Les prodiges en eux-mêmes n'ont sauvé qui que ce soit. Leur rôle était d'attirer l'attention des hommes pour qu'on leur prêche et d'attester que les apôtres étaient animés du Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus par une œuvre directe de l'Esprit-Saint sur le cœur des hommes que la conversion s'est produite. Il est vrai que Jésus avait dit en Jean 16, verset 12, au sujet du Consolateur ou l'Esprit de vérité, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais de quelle manière l'Esprit agirait-il pour convaincre les hommes? Ce fut au moyen de son épée, la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Jacques dit aux chrétiens en Jacques 1, verset 18 que Dieu les a engendrés ou fait naître de nouveau par la parole de vérité. Il dit au verset 21 du même chapitre de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'apôtre Paul dit en Romains 10, verset 17 « La foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand l'apôtre Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, ce qu'il disait ne venait pas de lui-même, mais de l'Esprit Saint. Ce sont ces paroles inspirées qui ont produit la foi dans le cœur des auditeurs, la proclamation de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut, Romains 1, verset 16, est un préalable pour toute vraie conversion. Il n'est pas nécessaire de voir un miracle. Et il est inutile d'attendre que l'Esprit vienne directement dans ton cœur pour te convertir. Mais sans l'Évangile, aucune âme perdue ne peut être sauvée. Il est significatif que c'était Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. En effet, Jésus lui avait dit en Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Deux chapitres plus tard, nous voyons que Jésus donne aux autres apôtres cette même autorité de lier sur la terre, ou déclaré obligatoire pour les hommes, ce qui était lié dans le ciel ou décidé par Dieu lui-même. Mais pour ce qui est des clés du royaume, Jésus les promit à Pierre seul. Or, des clés servent surtout à ouvrir ou à fermer. Pierre devait se servir des clés du royaume ou de l'Église pour ouvrir la porte et donner l'accès à tous. Il a fait cela non pas en jugeant chaque personne pour décider si elle était digne d'entrer dans le ciel, mais tout simplement en annonçant pour la première fois l'Évangile de Jésus-Christ, qui invite les âmes à revenir à Dieu et leur fait connaître les conditions à remplir pour recevoir son pardon. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile et ainsi ouvert la porte du royaume. Dans notre prochaine étude, nous reviendrons au jour de la Pentecôte pour souligner d'autres leçons de la conversion des 3000 premiers chrétiens. Mais pour aujourd'hui, retenons surtout ceci. En ce jour-là, l'Évangile de la mort et la résurrection de Jésus fut prêché pour la première fois. Par ce moyen, l'Esprit de Dieu a convaincu les hommes de leur besoin d'un Sauveur et les a conduits à la foi en Christ. Ce même Évangile, si nécessaire à notre salut, a toujours ce même pouvoir. L'avez-vous accepté?
Nos jours se changent vite en années. Notre séjour est court ici-bas. Pour en porter nos gerbes glanées à notre maître, à ton pas. Dieu met son trésor, son évangile en de vils coffrets des cœurs humains, en de tout frêles vases d'argile. Son évangile est entre nos mains. Chaque minute est riche en promesses, chaque heure avance le dernier jour. Prêchons son évangile sans cesse, parlons partout de son grand amour. Comme un beau livre aux tranches dorées, et notre vie en ses premiers jours. Vite les pages sont altérées, qu'écrirons-nous au long de son cours? Dieu met son trésor, son évangile, en de vils coffrets des cœurs humains, en de tout frêles vases d'argile. Son évangile est entre nos mains.